Juste après le journal. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Juan Gomez. À demain. Bonjour à toutes et à tous. Inéligible ou pas, l'avenir politique de Marine Le Pen se joue en ce moment à Paris. La chef de file du Rassemblement National poursuivie pour l'affaire des assistants parlementaires européens. Le tribunal a commencé là à rendre son jugement. Marine Le Pen et 8 eurodéputés viennent d'être reconnus coupables de détournement de fonds publics. Une semaine de deuil national décrétée en Birmanie. Et cela après le violent séisme de vendredi, c'est la course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants. L'accès aux sinistrés est un défi logistique. À suivre aussi, vous en parliez en Guinée, un appel à élargir la grâce après celle accordée à Moussa Dadis Camara par le président de la transition. Les associations de victimes du massacre du 28 septembre sont consternées. Et puis la protection du Grand Bleu à Paris avec l'événement en ce moment SOS Océan pour préparer le sommet mondial prévu à Nice au mois de juin. Oui, c'est une audience cruciale en France pour Marine Le Pen. En ce moment, le tribunal de Paris est donc en train de rendre sa décision concernant la chef de file du Rassemblement National dans l'affaire des assistants au Parlement européen, assistants fictifs selon l'accusation. Marine Le Pen et 8 eurodéputés viennent d'être déclarés coupables de détournement de fonds publics. On attend, et c'est la principale question, celle des peines, celle de la peine de 5 ans d'inéligibilité requise par le parquet. Avec exécution provisoire, en clair, qui s'appliquerait immédiatement, même en cas d'appel, et qui empêcherait Marine Le Pen de se lancer dans la course à la présidentielle française de 2027. On y revient bien sûr dès que la décision est rendue. Drapeau en berne en Birmanie, la junte a décrété une semaine de deuil national après le puissant séisme qui a fait au moins 1700 morts vendredi. Le bilan pourrait encore s'alourdir, le temps passe et l'espoir de retrouver des survivants se réduit, d'autant que les opérations de secours sont très très compliquées dans la zone de l'épicentre, notamment dans le secteur de la ville birmane de Mandalay. Les équipes d'ACTED par exemple ont beaucoup de mal à accéder aux sinistrés. C'est ce qu'explique Aurélien Donnet, il est directeur général délégué de l'ONG.
Elles ont mis 11 heures quand même pour atteindre la ville et ce qu'elles ont constaté en venant de Yangon, c'est des destructions de plus en plus importantes à mesure qu'elles se rapprochaient de l'épicentre. Un autoroute coupée en plein milieu, elles ont dû passer par des routes alternatives pour rejoindre le nord. Mandalay est une grande ville, c'est très urbain. Beaucoup d'habitats, d'hôpitaux, d'écoles se sont effondrés, mais littéralement, il n'y en a plus de traces. Il y a eu des secousses hier et donc les personnes étaient plutôt à dormir dehors ou dans des hôtels en dur. Des familles recherchent leurs proches dans les décombres. Évidemment, l'électricité qui est très instable, voire complètement coupée dans tous les endroits qui ont été détruits, et le réseau téléphonique très très instable également. La première chose qu'on a immédiatement activée, c'est l'aide en soutien financier des familles qui se retrouvent dehors, des moyens financiers pour que ces familles puissent aller se fournir sur les marchés qui restent encore fonctionnels. Et donc l'idée, ça a été d'avoir une aide immédiate au sein de Mandalay, mais aussi à l'extérieur. Les zones rurales, on en parle très peu, mais elles sont également très touchées, parfois moins accessibles.
Aurélien Donnet, directeur général délégué de l'ONG ACTED, joint par Joris Zilberman. En Israël, une nomination inattendue ce matin. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a choisi un ex-commandant de la marine comme nouveau chef du Shin Bet, l'agence des renseignements intérieurs. Et cela en plein bras de fer sur le limogeage de son précédent patron. La destitution de Ronen Bar par le gouvernement a été gelée par la Cour suprême. Cette nomination donc aujourd'hui d'un amiral de réserve sans connaissance particulière dans le domaine du renseignement est une surprise, nous dit notre correspondant en Israël. En Syrie, le président par intérim prévient. Ahmad el-Shara assure vouloir parvenir à un consensus pour reconstruire le pays, mais il ajoute qu'il ne pourra pas satisfaire tout le monde. Parmi les multiples dossiers sur la table du tout nouveau gouvernement, celui des disparus, près de 4 mois après la chute du régime de Bachar el-Assad, des centaines de familles cherchent toujours leurs proches, victimes d'arrestations ou d'enlèvements. Plusieurs initiatives ont été lancées pour tenter de trouver les preuves des exactions, pour retrouver d'éventuelles fosses communes. Mais cela prend du temps, trop de temps pour les familles. Reportage à Damas, Manon Chaplin.
La disparition a eu lieu le 1er janvier 2014. Ce jour-là, Ibrahim Alhamad, 19 ans, se fait arrêter dans la province de Deir ez-Zor où il travaille comme volontaire pour le Croissant Rouge. Dans l'espoir de le retrouver, sa famille a au lendemain de la chute du régime partout fouillé, hôpitaux, morgues, listes de recensement des prisonniers. Ils ne savent toujours rien, pas même la raison de son arrestation. Anna, son amie d'enfance.
Juste avant, il avait fait entrer des médicaments dans les zones assiégées de Deir ez-Zor sous le contrôle des rebelles de l'armée syrienne libre. C'est l'une des raisons possibles.
Sur une petite place de la banlieue sud de Damas, Anna est venue avec des dizaines d'autres familles en mémoire des disparus. Elle porte la photo d'Ibrahim entre ses mains, réclame plus d'efforts du nouveau gouvernement syrien.
La question des disparitions forcées devrait être prise plus au sérieux par le gouvernement et faire l'objet d'une plus grande attention. C'est dur pour nous. Après la chute du régime, nous pensions tous retrouver nos proches emprisonnés.
Début février, le ministre des Affaires étrangères a annoncé la création d'une haute commission chargée des personnes disparues qui n'a toujours pas vu le jour. Autre problème, la sauvegarde des documents attestant de la brutalite du régime et des crimes de guerre. Jad Alhamada, cofondateur des Tentes de la Vérité, ONG qui vise à coordonner l'action des familles de disparus.
Le premier mois après la chute du régime, c'était le chaos. Nous avons vu des centaines de documents jetés par terre. Les quartiers généraux de la sécurité, les prisons, d'anciennes scènes de crimes, souillées. Cela rend toutes ces preuves inutilisables.
Selon le réseau syrien des droits de l'homme, près de 136 000 personnes ont disparu sous la dictature du clan Assad. Seule la trace de 24 000 d'entre eux a été retrouvée au lendemain de la chute du régime. Manon Chaplin, Damas, RFI.
Joie pour les uns, consternation pour les autres. En Guinée, la grâce accordée à Moussa Dadis Camara par le chef de la transition Mamadi Doumbouya continue de faire réagir. Dadis, condamné l'an dernier pour crime contre l'humanité, pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009. 7 autres personnes avaient été condamnées lors de ce procès historique à Conakry, dont Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba, alors aide de camp de Dadis Camara. Il avait écopé de 10 ans de prison. Son avocat, maître Lansine Nessila, réclame aujourd'hui lui aussi une grâce pour son client et tous les autres condamnés.
Cette mesure qui a été prise en faveur du président Dadis, nous pensons qu'elle doit être au nom de l'équité, au nom de la justice, au nom certainement de l'esprit de réconciliation qui guide le président de la République. Cette mesure mérite d'être étendue à tous les autres condamnés, dont notamment M. Aboubacar Diakité Ditoumba. Nous demandons au président d'aller au bout du chemin qu'il a emprunté, c'est de faire en sorte que son pardon soit accordé à tous ceux qui ont été condamnés pour les mêmes faits. C'est à ce prix que nous allons comprendre qu'il est animé d'une véritable volonté de réconciliation qui ne peut pas se faire dans l'exclusion.
L'appel de maître Lansine Nessila, propos recueillis par Tanguy Billan. SOS Océan, c'est le cri d'alerte lancé par des scientifiques, des représentants de la société civile, des personnalités politiques ou encore l'acteur américain Harrison Ford lors d'un sommet à Paris. Ça a débuté hier et ça continue aujourd'hui. Sommet en amont d'un autre rendez-vous mondial sur les océans. Ce sera à Nice, dans le sud de la France, au mois de juin, Pauline Inglaise.
Un SOS lancé sur la base des dernières données scientifiques. Johan Rockström, directeur de l'Institut Potsdam de recherche sur l'impact climatique, dressera un bilan de santé des océans.
Tous les indicateurs de la santé des océans continuent à pointer dans la mauvaise direction. Et en plus, beaucoup d'entre eux changent plus rapidement que nous l'avions prévu.
L'importance de cette rencontre, préparer les esprits à 2 mois de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan pour que le sommet de Nice soit réussi. Pour cela, aux yeux de Johan Rockström, il faudra faire de la gestion durable des océans une priorité.
Nous avons besoin de plus d'investissements, de plus de politiques pour créer plus de zones marines protégées. Je pense aussi que le sommet de l'océan doit reconnaître la nécessité de mesures économiques pour punir les acteurs et les économies qui continuent de détruire l'océan.
Les mers, l'océanographe Sylvia Earle, les a vues se transformer au cours de décennies de plongée. Elle nourrit de grands espoirs dans ces 2 sommets.
Nous n'aurons jamais de meilleure opportunité que maintenant. Cela va devenir plus difficile. Alors je suis ravi d'être à cette conférence de Paris.
En discours de clôture, Emmanuel Macron devrait faire part de son ambition pour la conférence de Nice.
Pauline Glaise. Et puis pas de 100e titre pour Novak Djokovic. Le Serbe s'est incliné en finale du Masters 1000 de Miami de tennis par un jeune talent, le Tchèque Jakub Mencik, 19 ans. Il n'était même pas né quand Djoko, son idole, jouait ses premiers matchs en Grand Chelem. 11h10 à Paris, on vous retrouve Caroline Paré pour Priorité Santé.